Bonjour à tous et bienvenue sur RPH pour l'émission des BTS 1 du lycée Jean Moulin à Pézenas qui sera basée sur l'immigration espagnole.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une page importante de l'histoire locale, l'immigration espagnole dans le sud de l'Hérault et en particulier à Pézenas. À partir des années 1930, puis après la guerre civile espagnole, de nombreuses familles ont traversé la frontière pour fuir la guerre, la dictature et la misère. Elles se sont installées ici, ont travaillé dans les vignes, le bâtiment, l'artisanat et ont contribué à façonner la vie économique et culturelle du territoire. Dans cette émission, nous allons comprendre pourquoi elles sont venues, comment elles ont été accueillies et quelles traces de cette histoire sont encore visibles aujourd'hui. Derrière ce sujet, il y a des histoires très concrètes, des départs parfois précipités, des parcours difficiles et une installation dans un pays nouveau, avec une autre langue et d'autres habitudes. Mais il y a aussi une capacité à se reconstruire, à trouver sa place, à fonder une famille et à s'ancrer dans un territoire. Ici, dans le sud de l'Hérault, l'arrivée de travailleurs espagnols a longtemps été liée aux besoins de main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture et la vigne. Et à Pézenas, comme dans les communes voisines, cette présence a laissé une empreinte. Dans certaines familles, dans des souvenirs transmis et dans une mémoire locale qui continue d'exister. Et maintenant, nous allons laisser la parole aux personnes que nous avons interviewées.
Madame Ber Maria.
J'ai une enfance heureuse avec des copains, des copines, mes parents, mes frères, mais à part ça, la misère. La misère. Mon père, il était maçon. Il travaillait pour lui. Lui voulait être libre, que personne ne le commande. J'habitais dans une maison des voisins, qui à la Havane Andalousie. On était 18 voisins. On était tous ensemble. Tous, on a grandi ensemble. Jusqu'à 20 ans que je suis arrivé ici. Et bien, aucun ne savait lire ni écrire. Les jeunes hommes, ils allaient apprendre des cours. Le soir, parce qu'ils partaient au régiment pour pouvoir écrire aux parents et aux fiancés. C'est pas une honte. Il n'a fait que des analphabètes. C'est une dictature. Ils n'apprenaient rien. Ils nous apprenaient rien. En rentrant, il fallait faire ça. Il y avait la maîtresse à la porte. Il fallait se faire ça. Il dira viva Franco et son épouse. Après, il nous faisait dire quelques mots du catéchisme. Et après, on faisait ça comme vous voulez. Et c'est pas joli de le dire, mais moi, je m'amusais pas en classe, j'allais pour apprendre.
Quel âge avez-vous au moment de quitter l'Espagne?
20 ans, pile. Vous croyez? Ça vous marque la vie. Oh, indécidément, j'ai pleuré. J'ai pleuré de 7 heures à Monaco de Séville jusqu'à le lendemain à 8 heures du soir à Barcelone. Sans boire, sans manger, ni rien. Et mes frères, pareil, parce qu'ils me voyaient à moi. Et après, on a pris un autre train. Le matin, on a dormi à côté de à la gare, à Barcelone, à Sants. Et on a pris un train pour la frontière. Entrons pour ici que mon père m'attendait. Il nous attendait avec une voiture de l'entreprise.
Si c'est que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podem...
Isabelle Vivet.
Alors moi je suis née en France, c'est mes grands-parents qui sont nés en Espagne, okay. Mon père et mon oncle. Je connais très peu l'histoire parce que c'est un sujet tabou. On n'en parlait pas. Mais ma grand-mère et ses deux enfants sont arrivés en avril 37. Mon grand-père est retourné en Espagne parce que c'était un républicain, il s'est battu. Il a passé les Pyrénées avec un collègue en février 1939, à pied. Et quand il est arrivé en France, il s'est fait attraper et il a été au camp de Rivesaltes. Voilà, il venait de Barcelone. Et donc ma grand-mère est arrivée la première avec ses deux enfants. Parce que sa sœur était couturière à Pézenas, rue Conti. Voilà, donc après, j'essaye, même encore au jour d'aujourd'hui, de recouper des infos, d'aller sur des sites, pour essayer de... Parce que c'était un sujet tabou, mon grand-père n'en parlait jamais. Et il n'est jamais retourné en Espagne. Alors, au décès de Franco, il n'est pas retourné.
Et est-ce que vous savez combien de temps votre grand-père il est resté dans le camp de Rivesaltes?
Il est resté un an et demi.
Un an et demi, et après il a pu sortir sans...
Et après, il y a sur la, y a marqué sortie, je ne sais plus, il y a marqué la date, et il y a trois lettres, je ne sais plus comment c'était les trois lettres, Béziers. Alors, est-ce qu'on l'a mis sur Béziers, il a pris un train pour aller ailleurs? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que mes recherches, je cherche toujours. Alors je donne l'identifiant, je dis voilà, il était là, il y a ses initiales, il y a marqué Béziers, est-ce qu'il a pris un train pour aller, je ne sais pas moi... pour travailler ailleurs, comme après c'était la Deuxième Guerre mondiale ici, il fallait de la main d'œuvre. Bon, c'est comme ça que des fois ben, j'ai un petit truc, mais je peux y passer des fois des après-midi entières, à chercher.
Je suis Monsieur Zimanski Didier. Le premier nom n'évoque pas l'Espagne, mais mon second nom, c'est Sanchez. C'était le nom de ma mère. Donc moi, je suis né en France, mais de parents et de grands-parents d'origine espagnole. Le grand-père paternel est né dans la province de Galice, près de Lugo, et ma grand-mère dans la province de Castilla y León, près de Gradef, c'est une petite ville. Ils ont fui l'Espagne en 1939. Ils ont passé la frontière du Pertus au mois de début février 1939, poussés par les armées de Franco qui leur tiraient dessus, parce qu'il faut savoir que cette fuite s'est faite sous des bombardements de l'aviation, sur l'aviation souvent italienne ou allemande, puisque Hitler et Mussolini prêtaient main forte à Franco. Et j'ai un souvenir, ma mère m'a raconté, parce qu'elle est venue donc avec ses deux, enfin une sœur et un frère. Elle, c'était la cadette, elle avait un frère plus âgé de 9 ans, ma mère avait 5 ans, ils étaient 4 même. Et il y avait Pilar aussi qui avait 3 ans, et un plus petit, José, qui avait un an et demi. Donc le plus petit était porté par un soldat, un républicain, et ma mère racontait que lors du mitraillement de la foule, le soldat qui le portait sur ses épaules a été touché et mort, et mon oncle, puisque c'était le frère de ma mère, était sur ses épaules, donc c'est quelque chose qui est resté un peu gravé. Lorsque la famille est arrivée en France, le père a été séparé de sa femme et de ses enfants. Les hommes ont été envoyés en camp de concentration et ma grand-mère est partie travailler dans un camp de travail avec ses enfants dans le Lot, à Catus. Elle travaillait dans une ferme et ils étaient logés dans une écurie. Et donc, si vous voulez, pour retrouver sa famille, il a dû se déclarer mineur, métier qu'il n'avait jamais fait puisqu'il travaillait pour le chemin de fer en Espagne, la Renfe. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans une ville qui s'appelle De Casville, qui était un centre industriel minier. Parce que comme c'était la guerre, il y avait besoin de main d'œuvre. Et les houillères de Casville recherchaient de la main d'œuvre et sont allées dans ces camps voir qui souhaitait travailler. Et mon grand-père, il avait 40 ans passé, il a dit oui, moi je suis mineur, il n'avait jamais fait. Et c'est comme ça qu'il a pu retrouver sa famille, sa femme. Dans la mesure où il avait un travail, il pouvait être installé, etc.
Je m'appelle Carmen Larrain. Je suis née en France en 1943. Donc mes parents sont rentrés en France en 1939, à la fin de la guerre d'Espagne. Mon père et ma mère sont du même village, mais ils n'étaient pas ensemble au moment de la retirada. Ils se sont retrouvés après. Donc mon père, lui, il est arrivé à Argelès directement. Il a déposé les armes, il est arrivé à Argelès, il y est resté jusqu'à ce qu'il soit mobilisé pour partir sauver la France suite aux Allemands qui avaient... Et donc... Mon père, là, a dit oui, je vais continuer à défendre contre le fascisme, Et ma mère, elle avait traversé en 39 aussi les Pyrénées avec ses parents, elle. Elle était un petit peu plus jeune, elle avait dans les 18-19 ans. Et son frère aîné, lui, il avait été fusillé en début de guerre d'Espagne. Donc toute la famille était partie. Et mon père, lui, était tout seul de sa famille à être immigré. Ses parents et ses frères et sœurs étaient restés en Andalousie. Et premier enfant en 40, c'est ma sœur. Ensuite, moi en 43. Et après, 7 enfants ont suivi. Parce que c'était...
grande famille.
Et une grande famille, c'était aussi le vouloir avoir une richesse. Pour eux, les enfants, c'était quand même une richesse. Et donc, c'était un peu inconscient aussi, dans la mesure où ils n'avaient rien. Mais c'était aussi une façon d'avoir quelque chose.
Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que si s'he costa tant que cops la força m'oblida torna.
Oh, no, était très bien accueilli, très bien, très bien. Le patron de mon père, magnifique, il nous a aidé. Il même nous a prêté une maison qu'il venait de faire pour un ingénieur qui arrivait quelques mois après. Il a dit à mon père, amenez vos enfants, si vous ne voulez pas qu'ils continuent tout seul, que ma mère est morte subitement. Alors, si vous voulez les amener, il nous a prêté la maison. En attendant que l'ingénieur arrive. Et tout le monde m'a aidé partout, les épiceries. Il me rectifiait quand je disais quelque chose de pas bien, des mots pas bien. Il me disait, c'est comme ça, c'est un souvenir très bien. Bon, il y en a eu, mais qui ont été grossiers. Mais une personne, et moi je me suis dit, c'est un imbécile. Moi, je me suis dit, n'écoute pas, c'est un imbécile. Je suis complètement intégrée. Tout à l'heure, je me sens intégrée. Mon mari, elle est ici. Elle est des grands-parents aragonais. Mes enfants, ils sont d'ici. Et bien, moi, je suis d'ici.
Est-ce que vous ou les membres de votre famille avez vécu une discrimination à cause de cette immigration?
Oui, forcément. Forcément. Moi, à l'école, on a été très bien intégrés. D'abord parce que nos parents mythifiaient beaucoup l'école, hein, parce qu'ils n'avaient pas eu ça. Donc, on était bien intégrés par les enseignants. Mais entre enfants, c'était quand même une autre histoire. Et nous, on avait la chance parce qu'on était nombreux, on vivait un peu en tribu. Hein. Quand on est 7, on se suit... On craignait personne, hein. Mais quand même, on était les Espagnols, comme j'ai entendu d'autres, de merde. Mais bon, les Espagnols, on prenait la place des autres. Voilà. Le problème d'immigration, oui, c'est bien sûr.
Quand on voit comment les réfugiés espagnols ont été traités en France en 1939, est-ce que ça remet en question l'image qu'on a aujourd'hui d'un pays des droits de l'homme?
Je crois que oui, à un moment donné, j'étais très révoltée contre ça, mais je me dis... Si je me mets à la place des gens qui, tout d'un coup, ont vu débarquer cette horde de gens très nombreux à envahir, ils ont eu peur, hein, ils ont eu peur aussi. Mais c'est sûr que le reproche par rapport aux autorités en place, c'est sûr que c'était pas cool. Mais les gens, les personnes eux-mêmes, ils ont eu peur. Ils se sont sentis envahis dans le sud de la France. Quand ils ont vu arriver tous ces gens, après 4 ans de guerre, ils étaient affamés, ils étaient mal soignés, ils étaient apeurés. Donc ça devait faire peur. Avec le recul, je me dis que ça devait faire peur.
Si tu l'estires fort, i jo l'estiro fort.
Внука Томба, 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 Есть время
либора. Est-ce que ça a été facile pour vos parents de trouver du travail en France ?
Non, c'était difficile. Mais en même temps, ils étaient très débrouillards. Ils faisaient tout ce qu'ils trouvaient. Hein. Donc, ils ont travaillé au service. Ma mère travaillait dans une teinturerie. Elle faisait le repassage. Mon père faisait tout ce qu'il trouvait. Moi, maçonnerie. Voilà. Mais bien sûr, c'était ce que les autres ne voulaient pas faire. Hein.
Est-ce que vous avez un souvenir à eux qui vous a plus marqué qu'un autre ou...
Oui. Enfin, quand je dis que, si vous voulez, il y a eu quand même quelques moments où les grands-parents parlaient notamment de leur installation en France. Hein, ils habitaient carrément une seule pièce qu'ils partageaient avec une autre famille. Ils avaient aucun meuble. Donc ils avaient une caisse qui retournait, qui faisait table, ils faisaient un feu par terre, etc. Les premières années, ça avait été très difficile. Et ensuite, ça a été le problème de l'intégration. À l'école, ma mère a quitté l'école vers 12-14 ans. Il y avait beaucoup de racisme à cette époque. Les institutrices qu'elle avait, leur mari était prisonnier en Allemagne, c'était prisonnier de guerre. Et voyait ces immigrés un petit peu comme des voleurs de pain. Eux disaient qu'elles souffraient parce que leur mari était prisonnier et qu'on accueillait ces étrangers, etc. Et ma mère se souvient que, par exemple, bon, elle était dans des classes, plus de la moitié était d'origine étrangère. Hein. Il y avait des Espagnols, des Hongrois. Et elle disait qu'aux Espagnols, les instits leur jetaient le cahier. Il fallait qu'elles se baissent pour le ramasser. Elles étaient au fond de la classe, etc. Donc il y a des moments comme ça où, pour trouver du travail aussi. On ne donnait pas du travail, il y avait une priorité. Il y avait une loi française de 1945 qui donnait priorité aux Français pour le travail. Il y avait des quotas, disons. Et les Espagnols étaient souvent un peu refusés.
Au début que vous avez quitté l'Espagne, il était difficile ou pas le dialogue pour parler de l'Espagne ou de ce qui se passait pour votre famille ?
Ah oui, mon père a toujours, il nous a raconté toutes les anecdotes, tout ça qui s'est passé, tout ça qui ont passé pendant la guerre.
Il n'est pas resté dans le silence, il a
ah
parlé.
Ah non, moi je sais tout, qu'est ça qui les sont arrivés à tous les membres de ma famille. Tout, et comme mon père il a passé la guerre civile, et après là, la dictature, c'est moi, je l'ai vécu. Que les personnes qui ont fait la guerre, qui ont souffert, qui ont eu peur de le dire aux enfants, aux pas qui se mêlent, pas que c'était dangereux. La moindre chose comme ça, on te tabassait, on te mettait en prison. Ils avaient peur. Mon père, il n'a jamais eu peur de rien. Vous savez que ça que disait mon père, hein, parce qu'à côté, il y en avait un qui avait servi avec Franco, un voisin. Et pourtant, il était gentil. Il était gentil. Quand il voyait arriver, il rentrait par le grand portail, il commençait mon père. Ici, il sort de la chemise noire. Parce qu'il portait toujours la chemise noire, lui. Et mon père, il là-bas, dira vive le communisme. C'est dire vive le Betty. Ça ne se disait pas, on ne pouvait pas le dire. Hein. Alors mon père s'est régalé de le dire. À haute voix.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela.
Il y a un pan de l'histoire que je ne connais pas et que j'aurais aimé connaître. Parce que mon grand-père avait des frères et sœurs qui sont restés à Barcelone. Lui, par contre, il est rentré. Alors, il était républicain, peut-être que les autres n'étaient pas républicains, donc ils ont pu rester. Mais pourquoi ? Pourquoi être rentré si tôt ? Pourquoi être resté là-bas ? Il y a des questions qui sont restées avec mes points d'interrogation. Et j'ai plus personne maintenant. J'ai plus mes grands-parents, j'ai plus mon oncle, j'ai plus mon père. Donc,
vous auriez aimé peut-être
savoir
et ouais. Trouver le lien ouais. Avec votre
oui,
famille.
Oui, savoir. Et il m'est arrivé la dernière année avant qu'il ne décède, mon grand-père. On se retrouvait tous les deux, j'essayais de lui poser des questions. Et ma grand-mère était méfiante. Et quand elle voyait que je m'approchais, elle disait « Kayate ». C'est-à-dire « Tu te tais, tu dis rien, pour surtout pas en parler ». Et il n'en a jamais parlé. Et il est parti avec son secret. Mais je sais que ma grand-mère est retournée après la mort de Franco en Espagne, à Barcelone, mais lui, non, jamais. Il avait dit « j'y retournerai jamais » et il n'est jamais retourné.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela.
Est-ce que vos grands-parents et votre mère, si elle avait quelques souvenirs, vous ont déjà partagé? Est-ce qu'il y a eu une gêne autour de cette période-là, ou est-ce qu'elle a toujours, ils ont toujours été ouverts
Ma mère n'avait aucun souvenir.
D'accord.
Zéro. C'est assez pourtant, 5-6 ans. Et les grands-parents n'ont pratiquement jamais parlé de cette période.
C'est un sujet qui est resté très tabou pendant plusieurs moments.
Oui, plusieurs années. Hein. Plusieurs, même presque des dizaines d'années. Ils ne voulaient pas en parler parce que c'était, ils avaient tiré un trait. Ils avaient tiré un trait, c'était fini. De toute façon, on ne souhaitait plus leur présence en Espagne du temps de Franco, jusqu'en 75, parce que Franco est mort en 75, et mon grand-père est mort la même année. Et ça a été sa grande déception. Il est mort 2 mois avant celle de Franco. Mmh. Il voulait toujours mourir après lui, mais bon, ça s'est passé comme ça.
Parmi toutes vos connaissances, est-ce que vous savez s'il y en a donc beaucoup qui sont repartis en Espagne ou qui ont décidé de rester en France ?
Non, parce que tous étaient en danger, parce que quand on quitte un pays, c'est qu'on est vraiment en danger. Tous ceux qui ont passé la frontière, qui étaient donc qui avaient décidé de refuser Franco, s'ils étaient restés, ils étaient ou fusillés ou en prison. Donc ils étaient obligés de partir. Ils étaient vraiment. On ne quitte jamais un pays si on n'a pas. Sauf un problème économique de survie alimentaire, mais autrement, politiquement, c'est qu'on est en danger. Mon grand-père et ma grand-mère, les parents de ma mère, leur fils aîné, il avait 25 ans, il a été fusillé. Donc, eux, ils étaient vraiment. S'ils restaient, ils se faisaient tuer. Ils sont partis. Il y en a qui sont partis parce qu'ils étaient politiquement. Très, très impliqués, mais d'autres, c'est parce qu'ils risquaient leur vie. Et je vous précise ça par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans les rues, comme personne immigrée qui cherche à trouver un accueil en France ou en Italie ou ailleurs. Ils sont en danger de mort dans leur pays.
Je suis allée en Espagne. J'ai resté longtemps sans vouloir rien savoir. Tellement j'étais dégoûtée. Je ne voulais même pas écrire aux copines, rien. Au bout de 14 ans, je suis allée en Espagne, à que ma mère est enterrée là-bas. Et après, je continue à aller chaque année pour la Toussaint. Pour la Toussaint. Après, on a amené ma mère ici. On s'est mis d'accord avec mes frères, qu'on est tous là. Et on l'a amené ici, à Pessenas. Voilà. Alors, non. Non, je ne regrette pas l'Espagne. Maintenant, j'ai la nostalgie beaucoup parce que j'ai une tablette. Alors, je sape et je suis à Granada, je suis à Séville où j'ai grandi.
Et est-ce que vous avez eu l'occasion avec du coup, votre grand-mère ou votre mère de retourner en Espagne après pour,
Alors oui, en 1970, avant c'était pas possible, jugé dangereux. Parce que mes grands-parents ont toujours eu peur de retourner en Espagne, parce qu'il faut savoir qu'il y avait toujours des arrestations et des condamnations de la prison en Espagne jusqu'aux derniers instants de vie de Franco. Hein. Donc oui, on y est retourné. En vacances, comme beaucoup dans les années 70, c'était pour trouver un peu le soleil en Espagne, les plages, la mer. Moi, j'avais 12 ans, 12-13 ans à cette époque-là.
Ils ont toujours parlé espagnol, hein, c'est-à-dire que à la maison on parlait espagnol et au fur et à mesure qu'on était scolarisé, on parlait français, on a découvert le français à l'école. Mais très vite, on devient bilingue dans cette situation-là. C'est-à-dire que On parlait, on était bilingues, mais les parents, eux, s'accrochaient désespérément à leur langue et parlaient espagnol. Et ils nous ont toujours parlé espagnol jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc ils sont restés, je crois que dans un premier temps, ils pensaient repartir en Espagne. Pour eux, ce n'était pas définitif quand ils ont quitté l'Espagne. Ils pensaient repartir et ce n'était pas pensable qu'ils quittent leur pays. Et ensuite, la vie a fait qu'ils n'ont pas pu revenir. Mais ils ont passé, c'était énorme, une dizaine d'années, ils avaient pratiquement la valise prête pour repartir. Mais longtemps.
Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils donc restent ici?
Parce que Franco est resté très longtemps. Franco et l'Espagne qui les avaient rejetés. Donc eux, petit à petit, du reste, en ayant tous les enfants, mes parents, dans ma famille, il y avait 7 enfants. Donc au fur et à mesure... Tous les enfants se sont intégrés de plus en plus en France, ce qui fait qu'après eux, ils ont été progressivement du côté des enfants. Donc à la fin, leur pays, c'était le pays des enfants, quoi. Ils sont pas revenus.
Donc vos parents ne sont pas retournés en Espagne même après le règne de Franco ?
Si, ils sont revenus en Espagne en 75 quand Franco est mort. Ils sont revenus et on les a accompagnés dans leur village. Mais avant, ils n'étaient pas revenus. Et c'est vrai que ça faisait 40 ans, hein, 45 ans. Donc, ils n'ont pas retrouvé l'Espagne de leurs souvenirs. Ils étaient très déçus. Sauf, effectivement, ils étaient contents parce qu'ils retrouvaient la famille et le paysage. Mais ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Progressivement, 40 ans, c'est énorme. Ils avaient 20 ans quand ils étaient partis. Là, ils avaient 60 ans, quoi.
Est-ce que vous aurez un message à transmettre aux générations futures ?
Ah, un message ? Moi, je pense qu'il faut savoir se battre pour la liberté. Ça, c'est très important. On voit, quand elle n'existe plus, à quel point c'est important. La liberté d'écrire, de penser, d'avoir une opinion, et de pouvoir manifester, etc. Ça, c'est pour moi l'idée la plus importante.
Moi, oui, j'ai un message, c'est que les parents n'hésitent pas à parler aux enfants, à leur raconter tout ce qui est le plus près de la réalité, parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé avec nos parents. Et je crois que c'est un bénéfice pour les enfants de savoir ce qui se passe, de pouvoir vivre avec et se défendre et devenir des adultes qui savent pourquoi ils sont là. Donc ça me paraît important, le dialogue et expliquer aux enfants ce qui se passe. Donc là aujourd'hui qu'on est avec des tas de guerres partout et tout, je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut répéter, que les enfants puissent bien comprendre, si c'est possible, comprendre ce qui se passe.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Cette mémoire est précieuse parce qu'elle nous rappelle que l'identité d'un territoire se construit au fil des générations avec des parcours différents qui finissent par se rejoindre. Cette émission a été réalisée avec le service jeunesse et prévention de la ville de Pézenas,
le CISPD, de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée, la CAF de l'Hérault, le lycée Jean Moulin.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet.
Et merci à nos encadrants Christophe Gallic, Sergio et RPH.
Et merci à vous de nous avoir écoutés.